Bonjour, voilà, je suis Kola Bonan, cofondateur de Tsunagari Taiko Center, école de tambour et de danse japonaise. J'ai réalisé il y a quelques semaines un long entretien dans lequel j'ai présenté un peu en long et en large et en travers le contenu des cours, les sources de la pédagogie, un peu l'histoire, voilà, beaucoup d'aspects. Et plutôt que de diffuser ça en une grande vidéo depuis 2 heures, j'ai préféré la compartimenté en vidéo thématique. Et donc, dans la vidéo que vous allez regarder dans la minute qui suit, je présente un peu la pédagogie et surtout d'où est venue la pédagogie et l'approche que j'ai créée au sein des cours que j'anime à Tsunagari Taiko. Puisque la particularité, c'est qu'il s'agit bien plus que simplement de tambour japonais, il s'agit bien plus que simplement de culture japonaise. Il s'agit beaucoup de grandir en soi. Et pour obtenir des résultats et avoir des retours vibrants des élèves qui témoignent d'une efficience et d'une évolution en eux. Donc dans cette vidéo, je vous livre un peu quelles ont été les sources, en tout cas une partie d'entre elles, qui m'ont permis de créer ce mix que j'anime aujourd'hui au sein des cours de l'école Tsunagari Taiko Center. Bah écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et j'espère au plaisir.
Donc j'imagine que toi, tu t'es nourri beaucoup du taiko.
Ouais, mais pas que.
Voilà.
Bien sûr.
Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a nourri et qui fait qu'aujourd'hui,
oui, oui.
La syntaxe que tu proposes, elle est celle-là.
Ouais, ouais.
Enfin, elle est celle-là.
Ouais. Alors, clairement, si je n'avais fait que du taiko, tel que j'en ai fait, et avec beaucoup de qualité et des limites aussi, Tsunagari sous cette forme-là n'existerait
ouais,
pas.
Tu aurais fait une autre synthèse.
Ça aurait été différent, et je ne sais pas si aujourd'hui j'en serais déjà à l'heure de la synthèse.
Mmh. Ah ouais.
Il est bien probable qu'aujourd'hui j'en sois encore ou toujours à l'heure de la reproduction et de la quête.
Mmh.
D'accord? Avec, en allant chercher des influences à droite à gauche, d'autres enseignants, d'autres styles de taiko et à approfondir ça. Ce qui est le chemin assez classique. Ce qui s'est passé, c'est que, donc moi j'ai commencé à apprendre le taiko en 2004. Et en 2007, j'ai fait la connaissance d'Edel Goethe qui est à l'origine du leadership éthique. Et j'ai découvert à ce moment-là la puissance dans son approche, dans ce qu'elle propose, du repositionnement. Le repositionnement, c'est aujourd'hui je me perçois comme telle personne, timide ou fort ou fragile, ou enfin voilà, j'ai une image de ce que je suis aujourd'hui, de ma façon d'interagir avec les autres, de mes limites, de mes forces, de mes faiblesses. Voilà, j'ai un tableau global de qui je suis, qui me convient ou pas, mais c'est comme ça, d'accord. Et moi, ce que j'ai pu expérimenter, en fait, avec une première formation chez elle de 6 jours à l'époque, c'est que certaines limites que je voyais en moi n'étaient pas inéluctables, voire même, je pouvais m'en débarrasser tout de suite.
Tu les avais créées, quoi.
Je sais pas si je les avais créés ou si elles étaient issues de mon contexte familial, sociologique, religieux, peu importe. En tout cas, d'où que ça vienne. C'était ce que je pensais de moi, et j'ai découvert que c'était pas inévitable, et que c'était pas forcément une question d'année, je pouvais, là, tout de suite, décider de lâcher ça. Et pour le coup, c'est une session qui se déroulait ailleurs qu'à Paris, quand je suis revenu chez moi à Paris la semaine suivante, j'ai eu l'impression de redécouvrir le monde, de regarder le monde avec de nouveaux yeux. Là où j'étais plein de jugements, la caissière c'était la caissière, enfin voilà, j'avais beaucoup de jugements dans ma vie, tout d'un coup la caissière c'était un être humain. C'est plus pareil, d'accord? C'est une personne qui a des opinions, qui a des idées, qui a un libre arbitre. C'est plus un automate qui te dit combien ça coûte,
c'est
quoi.
C'est plus une étiquette, quoi.
C'est plus une étiquette.
C'est vraiment quelqu'un, un être dans sa...
Et donc, moi, il y a eu ce switch-là, puis d'autres, mais, chacun est différent. Donc, chacun, sur une formation chez elle, va toucher des choses différentes selon sa maturité, où il en est dans sa vie, ce qu'il est prêt à vivre ou pas.
Ouais.
Donc, moi, ça m'a fait faire ça. Et en fait, il y a eu ça sur ce plan-là, sur le plan de la relation à mon père aussi. Il y a eu des gros switches qui ont initié une nouvelle relation belle, en l'occurrence, magnifique. Là où c'était une relation sans grand intérêt, on va dire, faite de banalité. Donc, en faisant cette première session de formation avec elle, j'ai fait des switches, j'ai fait des repositionnements. Ce que j'entends, donc, pour revenir vers repositionnement, ce que j'entends par là, c'est voilà, typiquement, la caissière, c'était une étiquette, c'était une boîte, étiquetée caissière, avec tel rôle. Et le repositionnement, ça a été, je change de regard, et ça devient une personne qui est en train là de scanner mes articles, mais ça n'est pas que ça. C'est peut-être une mère de famille, c'est peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, ça n'est pas que ça. Et donc ça, c'est un changement de point de vue, le repositionnement, quelque part, qui permet donc d'appréhender les choses différemment, et la réalité différemment. Que ce soit envers les choses extérieures, donc là typiquement les êtres humains, mais aussi vis-à-vis de soi. Je suis timide et réservé, et donc je n'adresse pas trop la parole à... pourquoi ? Et si je pouvais être autrement ? Donc c'est un repositionnement là sur... Et si je pouvais être autre chose que juste timide et réservé qui n'adresse pas la parole ?
Ouais, tu sors de ta boîte.
Est-ce que j'ai envie d'autre chose ? Peut-être. Donc j'essaye. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le repositionnement. Alors, on peut le décrire sous plein d'autres formes, mais voilà. Donc j'ai commencé avec cette formation à faire le repositionnement, et pour le coup, ça m'a donné de tels résultats dans ma vie. Ma vie a tellement commencé à changer, que ce soit dans ma famille ou dans le taïko. Deux mois après, ma prof m'a dit « Tiens, tu veux faire un concert avec moi ?» Ça fait un an et demi que j'attendais qu'elle me propose de faire un concert. Et là, deux mois après cette formation, elle me propose de faire un concert. Trop cool. J'ai eu mon premier taïko, j'ai rencontré la mère de mon fils, ma conjointe de l'époque, dans cette phase-là. Enfin, ça a créé des résultats dans ma vie. Et j'ai fait « Mais waouh !» Donc j'ai continué à me former avec cette dame, Medel Goetz, jusqu'à faire avec elle, un cursus de 3 ans qui vise à grandir pour être en mesure d'orienter sa vie et de créer son projet de vie et de réaliser quelque part ce pourquoi, en tout cas avec mes mots, je ressens que je suis sur Terre.
Tu peux contribuer
En fait, ouais, depuis que je suis adolescent, je me disais, je suis pas sur Terre pour rien, donc pourquoi ? D'accord, quel est mon rôle sur cette terre, à quoi je vais contribuer ? Et c'était un gros point d'interrogation, jusqu'à ce parcours de 3 ans, où là, j'ai pu toucher, ok, d'accord, c'est ça, je suis sur terre pour créer des sourires. Ça peut se faire de plein de façons, et comme, quand j'avais cette maturité-là dans ce parcours de formation, ça faisait entre 5 et 7 ans que je faisais du taïko, je commence à avoir une maturité, ça faisait plusieurs années que je faisais des concerts avec ma professeure, que j'avais pris des responsabilités dans la structure, que ça m'occupait, le taïko m'occupait bien 3 jours par semaine, mine de rien. J'avais orienté mon travail pour me permettre de financer ces 3 jours-là, parce que c'est pas comme ça qu'on se met à travailler que 2 ou 3 jours par semaine, en gardant le même niveau de vie de ça, donc voilà. Mais typiquement, les formations avec elles m'ont permis de réorienter mon travail de l'époque pour gagner autant, voire plus en travaillant moins, et donc avoir plus de dispo pour taïko et mes formations. Et à un moment, en fait, j'ai senti que les principes que j'avais appris dans le taïko, à savoir le geste égale le son, une dynamique un peu à 100%, quelque chose de très transcendant en termes de réalité. À la fois, j'ai commencé à voir les problématiques qui existaient dans les cours que je ne voyais pas, j'ai commencé à les voir, parce que je commençais à développer un discernement et à ce qui était une normalité, à le voir moins normal, à voir que les cloques à la fin des cours, ça pourrait ne pas être normal.
C'était peut-être pas juste.
Que des élèves qui se sentent pas bien à la fin d'un cours, ça pourrait être autrement, au lieu de dire c'est comme ça. Et de là, j'ai senti que par le taïko, par cet outil, je pouvais probablement essayer de ce projet de vie que de créer des sourires en profondeur, en, de vie, quoi, au travers de cette pratique.
Mmh. Voilà. Et c'est ce qui fait que, parce que dans ce parcours avec, avec Edel Goetz, par exemple, et l'exemple de la caissière que tu as donné, mmh. tu disais que tu as vraiment replacé, toi, ton attention sur l'humain.
C'est ça. Ouais.
Et c'est ce que je ressens aussi tout à l'heure quand tu décrivais un peu l'expérience que tu proposes à Tsunagari Taiko, mmh. c'est ça aussi, c'est que chaque, tu regardes chacun comme étant un être humain.
Ouais.
Et c'est pas ça. Seulement quelqu'un qui vient, enfin je sais pas si je peux...
consommer un cours.
Voilà.
Ouais. Non, ça c'est un truc important, c'est que dans beaucoup de pratiques, l'humain est au service de la pratique. D'accord. En danse classique, le corps est au service du geste. Dans telle technique de tournage du bois où le corps c'est pas encore mécanisé et tout automatique, les gestes ils sont là et il faut les faire que ça plaise ou non au corps. Quand on est devant un ordinateur et qu'il faut écrire, c'est comme ça que ça plaise ou non au corps. D'accord. Donc le corps dans beaucoup de pratiques sportives, artistiques et de travail se soumet à une technique pour avoir tel résultat. Et comme il se soumet, eh bien, il subit. Mmh. Alors, à petit feu, il faut 15 ans pour développer une maladie professionnelle, ou rapidement, et au bout de 3 minutes de pratique, il y a 2 jours de récup avec des masseurs, etc. Typiquement, le 200 mètres, voilà. Mmh. Ou le ski de boss, voilà, ça dure 2 minutes, mais derrière, il y a du boulot.
Les dégâts sont importants.
Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Alors ça, c'est ni le Taiko ni Edel Goetz qui m'ont permis de faire cette bascule. C'est une troisième influence. C'est le Seitai. Qu'est-ce que c'est, Seitai? Le Seitai, pour donner un équivalent, c'est un peu une pratique chiropratique, de chiropractie, mais japonaise.
Ouais.
Ça s'apparente entre du massage et la correction corporelle. La grosse différence, donc moi je n'ai jamais appris à faire ça, mais j'ai reçu en 2011 une séance de Seitai pour la première fois de ma vie, et ça a été un repositionnement dans mon lien au corps, justement. C'est-à-dire que jusque-là, pour moi, c'était moi qui décidais de mon corps. C'est moi qui disais à mon corps de se tenir droit, moi qui disais à mon corps de se muscler ou de faire les gestes comme ça, etc. Donc la tête était directrice et donc imposée au corps telle ou telle façon de faire les choses ou de se comporter, etc. Comme d'ailleurs dans beaucoup de pratiques. T'apprends la danse classique, c'est la tête qui dit au corps, il faut tenir la jambe comme ça, à tel angle, etc. C'est pas le corps qui le fait ça naturellement, par évidence. D'accord. Et dans nos pratiques médicales, il y a un schéma corporel, le corps il devrait être de telle façon, et donc ton corps il est pas comme ça, et on vient essayer de corriger ton corps pour le faire se rapprocher du schéma idéal, les hanches bien horizontales, les épaules bien horizontales, etc., etc. La colonne devrait être avec telle courbure et pas telle autre. Donc ça, c'est le schéma occidental. Et ce massage Seitai m'a créé un résultat tellement interpellant que j'ai creusé, j'ai essayé de savoir qu'est-ce que c'est que cette pratique, et j'ai découvert que chez eux, ils considèrent que le corps... ils essayent d'amener le corps adulte à retrouver sa position de naissance, c'est-à-dire d'enfant, avant toutes les déformations liées au contexte social, professionnel, religieux, ethnique, etc., qui vont faire que on est voûté, ou on est ceci, ou on est cela.
Donc en fait, la référence, c'est l'enfant, c'est pas...
La référence, c'est pas un schéma
pas
technique.
C'est pas le corps dans le livre de médecine.
Non.
Quoi.
Okay. La référence, c'est le potentiel du corps, c'est comme ça que j'exprime en tout cas, à retrouver son équilibre qui a existé au début. Et pourquoi moi ça m'a interpellé? Donc déjà on retrouve un peu ces notions de potentiel, de possibilité. C'est pas quelque chose d'extérieur, on vient corriger. C'est une évolution.
Et il y a aussi, moi ce que j'entends aussi, c'est que c'est finalement, il y a plus une seule référence. Il y a autant de références que de...
Voilà, il y a la matière humaine.
Ouais.
Au lieu d'avoir la matière technique devant soi, et on vient corriger les boulons et les machins. Il y a la matière humaine et on vient lui permettre de retrouver son équilibre d'origine quelque part. D'accord. Et en ce sens, ça fait boucle aussi à ce que je dis de la pédagogie que j'ai développée aujourd'hui, où on vient chercher les compétences qu'on a eues quand on était tout jeune enfant, de dynamique, de souplesse, d'ouverture, etc., etc.
Et puis chacun avec ses propres compétences.
Avec chacun ce qu'il est, bien sûr. Il n'y a pas un enfant.
Ouais.
Et pourquoi moi, cette séance-là m'a interpellé ? Parce que quand ça s'est fini, bah, pour moi, il ne s'était rien passé de particulier.
Mais alors, c'était des massages, c'était quoi?
Ah, il m'a fait des manipulations avec des machines, des machins, il m'a un peu tourné, il n'y avait rien de douloureux, il n'y a rien qu'à claquer.
Ok. C'était plutôt en douceur, quoi?
Ouais, c'était plutôt en douceur, avec des sangles ici, des machins là, des trucs. Bon, ok. J'avais pas de douleur, j'avais pas de problème particulier, c'est plus par curiosité que j'ai pris cette séance.
T'avais pas conscience?
J'avais aucun souci identifié clair, voilà. Et oui, j'y ai pas été parce que j'ai l'épaule droite qui me faisait mal. Et ça s'est fini et bon d'accord et ma conjointe Ayuko qui était restée là tout le temps pour faire la traduction parce que je parle toujours pas d'ailleurs japonais suffisamment pour ça, quand elle m'a regardé elle m'a dit mais si j'étais pas restée je te reconnaîtrais pas. J'ai dit qu'est-ce qui a changé, raconte-moi, il s'est rien passé quoi, enfin oui il m'a manipulé mais c'est neutre quoi, ça n'a rien fait. Elle m'a dit, t'es complètement redressée. De quoi tu me parles? Ah bon?
Toi, tu le ressentais pas à ce moment-là.
Et je le sentais pas.
Ouais.
Et cet écart entre ma perception et la réalité objective de quelqu'un qui te regarde et qui te connaît m'a interpellé. Parce que normalement, j'aurais dû sentir qu'on m'aurait redressé. Et puis, on m'aurait dit, essaie de tenir droit, par exemple, tu vois. Il n'y avait rien de tout ça. Mais j'étais redressée. À mes dépens, mon corps s'était redressé, quelque part. Sans que ma conscience soit au courant, mon corps avait fait un boulot. Et c'était à l'inverse de toute la conception que j'avais, où c'est la tête qui décide au corps, qui dit au corps comment il va faire les choses.
Qui impose un modèle.
Qui impose un modèle, voilà, il faut être fin de la taille, ou il faut être ceci ou cela, selon la mode de l'époque. Il y a eu des époques où les femmes fallait qu'elles aient la taille très fine avec des corsets. Voilà, il y a des époques où il fallait qu'elles soient plutôt rondes. Il y a des époques les mecs qui devaient être hyper poilus et musclés. Il y a des époques où il fallait qu'ils soient imberbes. Bon, voilà. Et ça, on le soumet à notre corps en permanence. Et c'est toujours la tête, hein. C'est pas le corps qui a décidé qu'il fallait qu'il soit imberbe ou pas. Il s'en fout, le corps. Il est ce qu'il est. Et donc, en creusant un tout petit peu, j'ai vu que il s'agissait non pas de passer par le schéma mental et de dire, il y a tel problème dans le corps et essayer de faire tel exercice pour corriger. Mais il y avait des manipulations qui permettaient d'aider le corps à reconnecter à ses postures originelles.
Donc c'est une sorte d'ajustement presque intuitif du corps, quoi. Enfin, en tout cas, là c'était guidé, accompagné, mais ça veut dire que le corps se souvient. Enfin.
Ça veut dire. Alors moi, ce que j'en ai conclu, et c'est là que j'ai commencé à explorer, et de Tsunagari a été créé dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à explorer que. J'ai compris que, en fait, mon corps a peut-être sa propre intelligence. Et je mets un peut-être parce qu'à l'époque, c'était un peut-être pour moi.
Oui, tu savais.
Seitai a l'air de dire ça. Mon expérience a l'air de me dire ça, qu'il a sa propre intelligence et qu'il sait des choses que je ne sais pas. Mais enfin. Et donc, je me dis, mais. Et donc, j'ai eu envie d'explorer. Parce que, jusqu'à présent, la tête qui décide pour le corps. Ça n'avait pas eu de grands résultats pour mon corps, quoi. J'avais toujours un peu des douleurs là, toujours un peu voûté ici, ça n'avait rien changé. Donc, c'était une voie, je connaissais la recette, je connaissais le résultat, mais le résultat ne m'allait pas. Donc là, il y avait une autre recette possible, qui partait d'un autre postulat, qui est, ton corps, il a son intelligence, et donc, le sujet, c'est de l'écouter. Pas de lui dire ce qu'il a à faire et comment il doit le faire, et où est-ce qu'il doit procurer telle ou telle sensation, mais juste de l'écouter dans une écoute absolument neutre. Ni pas, dis-moi si t'as mal à tel endroit, mais juste, dis-moi ce que t'as à me dire. C'est, dis-moi, est-ce que t'as mal à tel endroit, c'est déjà une écoute dirigée. Mmh. Et le corps a peut-être rien à dire à cet endroit-là, mais peut-être à un autre endroit. D'accord. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à expérimenter sur moi-même, ce regard-là. Dis-moi, et pour le coup, j'ai commencé à faire évoluer ma pratique du tambour japonais, qui est très physique, d'accord? On fait des grands gestes, on bouge, etc. C'est pas sportif au sens qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de à qui tape le plus fort, etc. Mais c'est physique.
Mais ça
d'accord? Ça fait battre le cardiaque, voilà. Alors c'est accessible, alors, encore une fois, nous on a des personnes âgées dans mon cours, on a des enfants, on a des gens qui sont plutôt forts, donc c'est accessible à tout le monde, et tout le monde le fait justement parce qu'il y a cette approche selon qui il est et ce à quoi il peut accéder
dans
à ce
respect
moment-là.
De chacun.
Voilà, dans le respect de son intégrité physique. Je parle pas du principe qu'ils ont tous le même corps que moi et que voilà, ce qui de toute façon serait faux. Et donc voilà, j'ai commencé à faire évoluer ma pratique du taiko, qui était dans un cadre où je dirigeais mes gestes, à écouter les sensations que me procuraient ces gestes. Mmh. Et parce que aussi j'avais cette formation leadership éthique sur l'écoute de soi aussi, tout ça, il y a eu une évidence qui est que si la sensation est pas bonne, c'est pas agréable. Et donc mon instinct me dit qu'il faut aller vers une sensation agréable et pas me dire, bah, c'est normal, c'est comme ça, c'est la pratique qui veut ça. Ce qui est plutôt le regard habituel. Ça fait mal, c'est normal, c'est la pratique qui veut ça, bah, t'as une séance de massage derrière, c'est fait pour. Donc ça s'équilibre.
Oui, toi, t'es sorti du schéma, c'est normal, j'accepte et je me pose pas de questions.
Ouais, et pour le coup, j'ai un temps de récup derrière, ou de traitement.
Toi, t'étais dans le questionnement en disant, ok, mais qu'est-ce qui se passe?
Voilà. Et pour le coup, j'ai pris chaque signe de tension ou de douleur en jouant comme une invitation à essayer d'autres gestes.
Faire des micro-positionnements, tu pourrais dire.
Ouais. Des micro-ajustements ou des grosses remises en question, parfois, selon. Si c'est un truc qui, typiquement... Et donc, j'ai commencé à prendre des massages à Paris pour avoir un regard objectif de quelqu'un d'autre sur mon corps. Voir dans quelle mesure cette pratique que j'ai commencé à faire de façon plus intensément, puisque j'ai commencé à donner des cours, à faire des concerts et tout ça, plus. En quoi, moi, dans mon évolution de pratique... Il y a une évolution dans mon corps.
Ah oui.
Parce que notre corps, on a grandi avec, il y a plein de choses qu'on ne peut pas voir parce que c'est la normalité. Voilà. Donc,
t'as presque fait une étude sur toi-même, en fait,
oui.
De te dire.
C'est pas presque, c'est. Ouais,
tu as fait une étude.
Et donc, tous les mois, j'allais voir ce masseur et chaque mois, il me faisait un retour, le bassin, hein, toujours décalé, ici c'est toujours tendu, machin, tout ça. D'accord, ok. Donc, je travaillais pour voir.
Ouais.
Et j'ajustais. Et lui, et moi, j'évaluais avec mes sensations. En sachant que c'était pas objectif, et donc en allant voir quelqu'un d'autre qui n'est pas plus objectif,
mais
qui a un autre regard.
Tu validais avec un deuxième regard.
Voilà, c'est ça. Et donc quand, sur plusieurs mois, il y avait un problème qui se dissipait et qui partait, je savais que j'étais sur la bonne piste.
Mmh.
D'accord. Enfin, un problème, quand il me disait j'ai la hanche pas tout à fait droite, j'avais pas de douleur, j'avais pas de problème. Mais ça veut pas dire que c'est une bonne chose, parce que sur 20 ans, ça va faire des problèmes.
Ouais.
Et c'est pas le sujet. Donc voilà, il y a cette troisième influence, le Seitai, qui m'a amené à explorer le geste naturel, c'est-à-dire le geste naturel pour le corps, qui, s'il est naturel, il est donc facile, il est donc soutenable, c'est-à-dire je peux le faire longtemps, sans fatigue, sans douleur musculaire, sans en pâtir derrière. Et pour le coup, la technique que crée ce geste peut être qualitative pendant longtemps. Et comme c'est facile, quand les choses sont dans la facilité, on peut rentrer dans la finesse. Alors que quand c'est super dur, ça reste grossier. On peut pas rentrer dans le détail des choses.
Tu descends dans quelque chose de plus subtil. Hein,
voilà. Et pour le coup, ça permet de rentrer dans une pratique instrumentale qui est beaucoup plus délicate, beaucoup plus fine, parce que chaque geste devient... une sensation de chaque instant, millimétrée dans la sensation, pas dans l'exigence du millimètre ici. Et ça crée une pratique musicale qui est,
peut-être le résultat.
Qui est beaucoup plus fleurie.
Ouais.
Alors qu'on est sur des gros tambours qui font tam-tam, quoi. D'accord? Et on découvre des subtilités, etc., qui sont extraordinaires en conséquence.
Mm. Oui, parce que tu parlais du rapport entre le geste et le son.
Voilà.
Donc
quand mon geste évolue parce que je l'interroge, etc.
C'est un geste plus subtil.
Le son change.
J'imagine que le son devient un geste plus subtil.
C'est ça. Ouais. C'est ça. Et pour le coup, et avec cette cohérence de, typiquement, moi, dans l'école, j'ai fait le choix de n'avoir que des instruments de grande qualité. Là où, beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi tu t'emmerdes? Prends des instruments à 500 euros. Un étudiant, quelqu'un en première, voire même deuxième année, il n'a pas besoin d'un instrument de concert. Il n'a pas besoin d'un instrument à 5000 euros. Oui, c'est vrai si on prend le principe que on est dans une approche technique, et donc le sujet c'est des gestes techniques, et on vient apprendre ces gestes techniques À la limite, qu'on tape sur une peau en toile ou sur un vrai instrument, on s'en fout. Donc autant on prend le moins cher et c'est plus simple. Mais si on considère qu'on est dans une évaluation de son geste et que le son est le miroir de ce geste, alors la précision de l'instrument est importante.
Ouais, la qualité.
Parce que si je change de 3 mm mon geste en termes de sensation, mais que la toile sur laquelle je tape
ne permet pas de
ne change rien du tout, ça me dit pas si c'est mieux ou moins bien. En tout cas, j'ai pas de reflet matériel. Enfin, en tout cas, grossier, quoi, comme un thermomètre.
Oui, t'as un écart entre la finesse du geste et la grossièreté de l'instrument.
Voilà. Et pour le coup, tu peux pas évaluer ta finesse et donc tu peux pas travailler en finesse. Et donc, moi, c'est un choix que j'ai fait depuis l'ouverture de l'école de n'avoir que des instruments faits par un fabricant au Japon qui sont d'une des meilleures qualités qui existent. C'est 1000, 3000, 5000, 6000 euros l'instrument. Avec un instrument, j'en aurais acheté 10 pour faire une salle, j'en ai qu'un.
T'as fait un autre choix. Ouais.
Donc, j'ai fait le choix de la qualité. Et puis, pour le coup, on se débrouille au niveau des élèves, ça fait des plus petits groupes, voilà. Mais le sujet, c'est pas la finance. Le sujet, c'est la qualité de travail qu'on y fait, la qualité des sensations qu'on y développe, le discernement dans le son. Les élèves, au début, je leur demande, est-ce que tu sens la différence ou tu vois la différence entre tes gestes et tes gestes? Non. Alors qu'un élève qui est là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ah oui, il va te dire, alors le son, il est plus comme ça, et puis alors ton geste est plus comme ça, il y a beaucoup de discernement qui développe. C'est permis par ce travail de corps en corrélation avec des instruments de qualité.
Si tu devais résumer en quelques mots l'expérience que tu proposes au Tsunagari Taiko, ce serait quoi?
Ce qui me vient en le mot le plus simple, ce serait une expérience d'épanouissement.
Ouais.
Au sens global, émotionnel, corporel, relationnel. On rentre non plus dans des relations où je dépends de l'autre, mais dans des relations où on se complète.